Et en ce dimanche, enfin c'est pas le culte de rentrée, mais c'est la rentrée demain, la rentrée scolaire, la rentrée un peu d'église aussi, je voulais commencer une série sur l'Apocalypse. Alors j'ai pas de gilet pare-balles, alors je vous prie de rentrer votre revolver dans votre holster, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, dans votre étui, et je me risque dans cette série de l'Apocalypse parce que c'est un livre de la Bible, le dernier livre de la Bible, et que la Bible est utile pour nous... instruire, pour nous encourager, pour nous édifier. Ensuite, parce que nous vivons une époque, alors voilà, série sur l'Apocalypse, et hop, parce que nous vivons une époque où les références à l'Apocalypse sont nombreuses. On se souvient dans les années 80, enfin, vous vous souvenez peut-être pas, mais il y avait ce film quand même qui a marqué, Apocalypse Now, avec Marlon Brando qui joue un ancien officier des services spéciaux, des forces spéciales américaines qui s'est réfugié dans un village où il est un despote plus ou moins éclairé, enfin très peu éclairé, et avec des zombies, c'est une atmosphère glauque, une atmosphère apocalyptique. Et puis, il y a eu l'an 2000, où les références à l'Apocalypse se sont multipliées. Et souvenez-vous, si vous étiez déjà né, il y a eu le fameux buzz, hein, c'est la fin du monde, et qui a fait un flop monumental, mais quand même, beaucoup de familles, surtout en Amérique, encore une fois, avaient fait des provisions parce que ça allait être la fin du monde, pour passer le cap de la fin du monde, de la catastrophe finale de l'Apocalypse. Et puis, il y a eu le 11 septembre 2001, le 11 septembre 2001 et l'activité des terroristes islamiques. Et d'ailleurs, un officier a dit à un moment, « Armageddon, c'est maintenant ». Armageddon, qui est une référence au livre de l'Apocalypse, la guerre finale, Armageddon, l'Apocalypse, now. L'Apocalypse, maintenant. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez de 2012 et le calendrier maya qui parlait de la fin du monde, qui semblait encore focalisé sur la fin du monde. Le 21 décembre 2012, il y a pas mal de gens dans différents pays qui sont montés dans des collines. Il y a eu des événements à Nice, je l'ai lu sur Internet. Mais bon, encore un buzz qui a fait flop, mais c'était quand même une apocalypse annoncée. J'ai lu sur Internet, encore une fois, que depuis la chute de l'Empire romain, il y a eu 183 annonces de l'apocalypse. Ça fait beaucoup. Et justement, et puis aujourd'hui, il y a aussi tout l'environnement, la pollution, la démographie galopante, le dérèglement de la planète, les déchets radioactifs, les centrales nucléaires, Tchernobyl, Fukushima... Le nucléaire, il y a Poutine qui a parlé hier ou avant-hier d'un missile de l'Apocalypse à tête nucléaire, ça revient, l'Apocalypse. Il y a comme une ombre qui plane au-dessus des eaux de la planète bleue, c'est la nôtre, l'ombre d'une énorme catastrophe, l'Apocalypse, point d'interrogation. Alors on le voit, l'Apocalypse est mise un petit peu à toutes les sauces et pas toujours de bon goût, et toute cette cuisine autour de l'Apocalypse pourrait nous paraître tout à fait indigeste le jour d'après l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'on fera le jour d'après? Et d'ailleurs, un jour, quelqu'un m'a dit, moi, l'Apocalypse de la Bible, ça ne m'inspire pas du tout. Et peut-être que vous êtes dans ce cas-là. Quand on sait tout ce qui a été dit et tout ce qui se dit par rapport à l'Apocalypse, on aurait plutôt envie de prendre ses distances par rapport à ce livre de la Bible, l'Apocalypse. Mais ce serait une erreur, peut-être une erreur. Non, une erreur, quand même. Et ce serait passer à côté d'un livre biblique qui veut nous apporter quelque chose dans la vie chrétienne. L'Apocalypse est la parole de Dieu qui veut nous faire grandir spirituellement, qui veut nous rendre persévérants dans la vie chrétienne et quelles que soient les circonstances. Et donc, nous nous lançons ensemble et avec beaucoup d'humilité, quand même, et dans l'aventure risquée de l'Apocalypse. Et nous allons lire ensemble les trois premiers versets. Révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. ou soudainement, on pourrait traduire. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage. Il a annoncé tout ce qu'il a vu. Heureux, celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent ou qui les gardent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Alors, dans cette introduction, vous avez le nom de l'auteur, Jean. Alors, il ne donne pas son nom de famille, Jean qui ? On ne l'a pas, c'est pas Jean Valjean en tout cas, mais on n'a pas de précision. Mais depuis très très longtemps, depuis 2000 ans, on pense, avec beaucoup de bonnes raisons, qu'il s'agit de l'apôtre Jean, de Jean l'évangéliste qui a écrit l'évangile de Jean, le quatrième évangile, et il aurait écrit cet apocalypse alors qu'il est sur l'île de Patmos, au large de la Turquie, et c'est vers la fin du 1er siècle, 80-90 de notre ère. Et les premières phrases d'un livre sont vraiment importantes pour la suite de la lecture. En général, l'auteur, dans les premières phrases, essaye d'attirer le lecteur pour qu'il poursuive sa lecture. Et pour qu'il aussi, qu'on puisse poursuivre la lecture dans les églises où les lettres de Paul ou l'Apocalypse sera lu. Et dans ces premiers versets, je crois pouvoir voir trois raisons pour s'intéresser à l'Apocalypse, à la lecture de l'Apocalypse now, maintenant. La première raison, c'est qu'il s'agit d'une révélation. C'est le premier mot du texte, révélation. En grec, apokalypsis, qui veut dire révélation. Alors c'est marrant, en français, on n'a pas traduit apokalypsis, on l'a translittéré. On a inventé un nouveau mot en français, apocalypse. Mais les Anglais, on appelle ce dernier livre de la Bible, de la traduction d'Apocalypsis, il l'appelle Revelation, révélation. Je ne sais pas pourquoi en France on a choisi Apocalypse et non pas la traduction de révélation, mais révélation de Jésus-Christ. Et vous l'avez vu dans le tableau de Hans Memling, qui est allemand, mais qui est mort à Bruges, et le tableau est à Bruges. Là, on voit Jean sur l'île de Patmos qui écrit, et il voit des choses que Jésus-Christ lui inspire ou lui fait voir. Et il prend note de la révélation, de ce qu'il voit, de ce que Dieu lui inspire. Et donc, l'Apocalypse est avant tout une révélation. Apocalypse n'est pas synonyme de catastrophe, ni de jugement. L'Apocalypse est une révélation et Jésus a des révélations à nous faire à travers Jean. Alors quand un homme politique qui est mis en examen aujourd'hui nous dit qu'il a des révélations à nous faire par rapport à ses copains, tout le monde s'empresse pour écouter ces révélations parce que ça crée le buzz, ça crée l'intérêt, des révélations. Et Dieu nous dit qu'il a des révélations. Alors, quand on nous parle de révélation, on est impatient de la connaître, cette révélation, cette apocalypsis. Mais en même temps, il y a un problème tout à fait paradoxal, parce que c'est que cette apocalypse se désigne comme une révélation, un éclaircissement, et quand on continue la lecture de l'apocalypse, je ne sais pas si vous l'avez déjà faite, cette lecture, on a comme un obscurcissement progressif. On nous parle de révélation et cela tourne à la confusion et peu à peu, il y a effectivement une distance qui s'installe entre nous et cet apocalypse et le lecteur d'aujourd'hui. Et cette distance, mes chers amis, elle est normale. Parce que l'apocalypse a été écrite il y a 2000 ans. Et c'est à nous de réduire un petit peu cette distance pour mieux profiter de cette révélation qui ne se veut pas mystérieuse. Non ? Alors pour réduire cette distance, il me semble qu'il y a deux éléments qu'il est vraiment nécessaire de savoir. C'est qu'il faut, quand on lit l'Apocalypse, tenir compte du genre apocalyptique, parce que c'est un genre littéraire qui est connu du monde juif qui a commencé 2 siècles avant Jésus-Christ, à l'époque des Maccabées, qui à l'époque étaient bien vivants, et jusqu'au 1er-2e siècle après Jésus-Christ. C'est un genre littéraire connu avec ses codes, avec ses symboles, avec son genre. C'est comme si le roman romantique ne correspond pas au roman noir, ou à la nouvelle, ou à l'essai. Il y a un genre littéraire particulier. Et donc, les Juifs écrivent ces apocalypses, et c'est sous l'oppression grecque et romaine. Et plusieurs auteurs écrivent des apocalypses qui sont toujours écrits en faveur d'un peuple opprimé par rapport au pouvoir oppresseur. Il y a par exemple une apocalypse qui s'appelle l'apocalypse de Baruch, qui est dans le monde juif, qui n'est pas du tout chrétienne. Alors, ça ne veut pas dire que l'apocalypse de la Bible est en tout point identique avec les autres apocalypses de Baruch ou de Moïse, comme il en existe une encore, mais on peut même dire que les différences sont vraiment remarquables et notables. Mais le point important, c'est de savoir que l'apocalypse biblique appartient à un genre littéraire connu de l'époque. Comme Jésus, à son époque, parlait en paraboles, et les paraboles, c'est un genre littéraire aussi connu par les rabbins. Les rabbins aussi parlaient en paraboles. Mais le fait que les rabbins enseignaient aussi en paraboles n'enlève rien à toute la pertinence des paraboles de Jésus, de même que l'Apocalypse est le genre littéraire de l'Apocalypse. Et puis, en deuxième lieu, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut tenir compte des symboles. Il y a dans l'Apocalypse une utilisation importante d'images, de figures, de symboles. D'abord, toute une symbolique des personnes, le lion, l'agneau, la bête, le vieillard, la prostituée, les témoins, la femme. Et il faut les voir en tant que symboles. Symbolique des nombres, le 7, le 6, le 12, le 1000. On parle souvent du 666. Mais ce chiffre n'a aucune importance. C'est 3 fois 6, on en parlera plus tard dans la série. C'est 3 fois 6 qui est important, comme le 3 fois 5. 3 fois 6, c'est 7 moins 1, 7 moins 1, 7 moins 1. 7 étant l'image de la perfection, le symbole de la divinité. Donc la marque de la bête, c'est 6, 6, 6, et pas 666. Bon bref, symbole des événements, les tremblements de terre, les vents qui soufflent, les étoiles qui tombent. Il y a un véritable défi pour nous, d'abord d'essayer de voir quelle est la représentation qu'il y a derrière le symbole, mais surtout de laisser au symbole leur fonction d'image. Et le but d'une image, le but d'une peinture, le but d'un tableau, c'est de laisser une impression, une atmosphère. Et c'est le but des images de l'Apocalypse et de ces symboles, créer une atmosphère. Et comme le dit un auteur, et je trouve cette citation intéressante, Jean ressemble plutôt au poète, au compositeur, au peintre, plutôt qu'à un agent des services secrets qui aurait reçu pour tâche d'encoder un message dans un langage que seul l'initié pourrait décoder. Non. L'Apocalypse n'est pas rempli de chiffres à décrypter, mais de symboles bibliques qui se combinent pour créer un monde de signification. Et donc, dans l'Apocalypse, on ne cherche pas à faire un rapport exact avec tous les détails scientifiques. On n'essaye pas non plus de faire une chronologie des événements, mais à créer une atmosphère. Et je ne vais pas vous citer la phrase d'Arletty qui la prononce dans l'Hôtel du Nord. Atmosphère. Hein ? Vous connaissez la suite. Hein ? Créer une atmosphère. Et avec... Quand on entre dans l'Apocalypse, on pourrait comparer la situation du lecteur de l'Apocalypse à celle d'un homme civil de son état qui rentre ou qui serait invité dans la tente de l'état-major d'une armée en pleine bataille. La tente est là. Il soulève le coin de la toile et il rentre. Il y a tous les hauts gradés, et puis il y a là le général des armées. Oh, il dit pas grand-chose, mais tout le monde le regarde avec beaucoup de confiance, ce général. Il y a des cartes un peu partout avec des symboles et des objets bizarres que l'on déplace. Vous ne comprenez pas tout, loin s'en faut, mais il y a une impression de force qui se dégage. Il y a une impression de une atmosphère de détermination qui vous impressionne et qui vous donne confiance. Ces gars-là, ils semblent avoir les choses en main. Et quand on entre dans l'Apocalypse, c'est un peu rentrer sur la pointe des pieds sous la tente de l'état-major de l'éternel des armées, comme le dit l'Ancien Testament. J'ai quelques souvenirs de l'hébreu, de l'hébreu biblique, pas grand-chose, mais je me souviens du mot Yahvé Tsebaoth, l'éternel des armées. Vous rentrez dans ce tente et vous en sortez avec une foi renouvelée, avec une confiance renforcée. Et si on est prêt à entrer dans l'atmosphère de l'Apocalypse, nous en sortirons en disant « Il est fort ce Dieu, il est fort ce Dieu-là ». Comme les vieillards d'Apocalypse 7, « À notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la force et la puissance pour toute éternité ». Dieu vous invite dans sa tente pour lever le voile, apocalypteo. Êtes-vous prêt à y entrer ? Deuxième raison pour lire l'Apocalypse et pour la commenter, c'est parce qu'il y a une bénédiction à la clé. Vous vous souvenez, on l'a lu, la première phrase, la deuxième, commence par le mot « heureux ». Le même que dans les béatitudes du sermon sur la montagne de Jésus, « heureux, celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui entendent et qui gardent ce qui est écrit de ce livre, car le temps est proche ». Le terme « heureux » ou « fortuné », « chanceux », « privilégié », c'est le seul livre de la Bible qui déclare heureux celui qui le lit. C'est le seul livre de la Bible qui, à la fin, déclare heureux celui qui l'a lu, ce livre. Alors, est-ce simplement une campagne publicitaire par la maison d'édition de l'Apocalypse biblique ? Lisez l'Apocalypse et vous serez heureux, comme des livres de développement personnel que l'on trouve à la FNAC. Heureux. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur la notion de bonheur, mais on a quand même l'impression que Jean exagère un tantinet quand il parle de privilège de lire la Bible dans une époque où on vit des moments difficiles. Je parle de l'époque du premier siècle. Parce que les gens, à cette époque, vivent des moments difficiles. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir quand on lit l'Apocalypse, connaître le contexte des premiers destinataires de ce livre, non pas pour reléguer l'Apocalypse dans le passé, mais pour mieux la comprendre, afin qu'elle soit pertinente dans notre présent. Apocalypse now. Alors le contexte de l'époque n'est pas des plus favorables par rapport aux chrétiens, et ça c'est un euphémisme. Il est extrêmement délicat, c'est aussi un autre euphémisme, de persévérer dans la foi chrétienne. Et parce que tout est fait pour décourager tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ, qui veulent rentrer, comme le disait Matthias tout à l'heure, dans une relation personnelle avec Jésus. Il y a d'abord la persécution qui n'est pas constante, il y a eu des périodes de répit, mais qui est quand même relativement omniprésente. Globalement, il ne fait pas bon d'être chrétien, c'est politiquement et socialement incorrect d'être chrétien à l'époque. Et encore aujourd'hui, peut-être pas en France ou pas encore en France, mais avec Mireille, on a lu le petit bulletin « Portes ouvertes », enfin, elle m'a fait lire, et qui parlait d'un jeune Sri Lankais, 16 ans, un gars très doué, chrétien, qui est le seul chrétien de l'époque à avoir montré sa foi, pris position dans sa foi chrétienne. Et il l'a fait contre l'école, je pense qu'il s'est fait sortir de l'école, quelque chose comme ça, mais 16 ans. Mais au Sri Lanka, socialement, ce n'est pas bon d'être chrétien, et dans beaucoup de pays du monde. Et c'est ce que vivaient aussi les chrétiens du premier siècle. Et puis, il y a aussi le culte de l'empereur, un culte de l'empereur romain voulu non seulement par les empereurs pour des raisons politiques, mais aussi par les autorités locales pour se faire bien voir de Rome. Il faisait un peu de faillotage. Et à Éphèse, par exemple, il y avait des statues de Domitien, l'empereur Domitien, qui faisait 4 fois la hauteur d'homme, des énormes statues. Il y avait des autels dans toute la ville et il était écrit « Au divin et unique souverain, à l'illustre empereur Domitien ». Et ça donne le ton. On doit adorer l'empereur. Et même le monde animal devait participer à l'hommage général. On avait dressé des perroquets pour qu'ils disent « Ave César ». Alors on peut imaginer que dans toutes les villes, et en particulier à Éphèse, les chrétiens se débattent comme ils peuvent dans cette ambiance de culte à l'empereur. Et à tous les chrétiens de ces églises naissantes, hein, parce qu'elles commencent simplement, elles ont 20 ans, 30 ans derrière elles, se pose un énorme problème, c'est celui de l'allégeance. C'est-à-dire de la loyauté. À qui doit-on se soumettre? Quel est le véritable maître du monde et de mon monde? Et une question avec des questions, des conséquences pratiques importantes, parce que si on refusait de payer l'impôt pour le culte à l'empereur, on risquait la mort ou le bannissement avec la confiscation de ses biens. C'est pas juste une question philosophique. Et les chrétiens de l'époque vivaient avec cette question-là. Tous les jours, la question de l'allégeance ou de la loyauté se posait. Tous les jours, il y avait une lutte intérieure, un conflit spirituel. Pour qui je vis? Pour l'empereur ou pour le Seigneur Jésus? Et c'est dans ce contexte-là extrêmement pénible que Jean écrit l'Apocalypse et qu'il dit « Heureux celui qui lit et qui garde ses paroles dans le trésor de son cœur et dans son obéissance quotidienne. » Heureux parce que ses paroles sont là pour lui donner du courage dans sa voix, pour lui permettre, dans sa foi, pour lui permettre de rester fidèle malgré les circonstances qui sont extrêmement défavorables. Et c'est clairement un des buts de l'Apocalypse, et qui a été occulté par son côté un petit peu spectaculaire, voire science-fiction. Et pour beaucoup, l'Apocalypse est synonyme de catastrophe, mais l'Apocalypse est avant tout un encouragement. J'ai dans ma bibliothèque, et je vous le montre, un livre sur l'Apocalypse écrit par un catholique, et le titre, tout le livre est excellent, mais le titre c'est « Je n'ai pas écrit », il parle comme s'il était Jean, « Je n'ai pas écrit l'Apocalypse pour vous faire peur. J'ai écrit, dit Jean, à Patmos, l'Apocalypse pour vous encourager. » Et l'encouragement porte, et ça c'est le sujet de toute l'Apocalypse en fait, sur la victoire finale de Dieu en Jésus-Christ. Pas la chronologie, mais il répète ce thème, la victoire, il y a des emboîtements, la victoire de Dieu, la victoire finale de Dieu, qui tient le monde dans sa main, qui accomplit ses vastes desseins, que son royaume arrive, qu'il reste maître de l'histoire et de mon histoire. Et l'Apocalypse cherche à nous donner une nouvelle philosophie de l'histoire et de mon histoire, non pas une histoire cyclique comme dans le bouddhisme, une histoire qui se répète et on s'échappe simplement par le nirvana. Non, une histoire qui monte, une histoire d'espérance. Ça, c'est notre philosophie de l'histoire, une histoire avec, au bout, une victoire finale, un royaume qui s'établit pleinement, qui est déjà en marche, mais qui s'établit pleinement. Et nous avons cette histoire, une jeune femme qui a été interrogée par la Gestapo, qui s'appelle Marie Basilea, et qui écrit dans son livre « Patmos et le ciel s'ouvrit », voilà ce qu'elle écrit. Interrogé donc par la Gestapo en 43, « Je me suis senti rempli d'une glorieuse certitude de victoire devant mes juges et je n'ai pu faire autrement que de leur témoigner du retour victorieux de Jésus. » Elle parle face à la Gestapo. « Il y avait en moi un triomphe supérieur à toute angoisse et toute prudence. Le dictateur au nom duquel j'avais été amené en jugement n'était en vérité qu'un précurseur de la bête. Il parlait de son troisième Reich comme d'un empire de 1000 ans et même d'éternité. Celui-ci ne fut pourtant que de courte durée et se termina par une grande défaite. La conviction absolue de la durée éternelle du règne de Jésus et de sa position de dernier dans l'histoire m'a constamment soutenu et soutiendra tous les croyants dans les temps difficiles. Bon. Pour cette femme comme pour d'autres, l'Apocalypse n'est pas l'annonce d'une catastrophe, mais un encouragement à persévérer dans les temps troublés, sachant que Dieu aura le mot de la fin, le mot de l'éternité. Et puis, je termine par cette troisième raison pour lire ou pour parler ici de l'Apocalypse, c'est parce que Jésus en est le personnage central. Et cela rend l'Apocalypse tout à fait incontournable pour ceux qui s'intéressent à la personne de Jésus-Christ, c'est-à-dire qui ? Ben, les chrétiens. Et les quatre premiers mots de l'Apocalypse sont clairs, révélation de Jésus-Christ. Alors nous avons en grec là un génitif que les germanophones comprendront, un génitif qui peut être le sujet, c'est Jésus qui donne la révélation donnée par Jésus-Christ. Mais ça peut être aussi un génitif objectif, où Jésus est l'objet de la révélation. C'est la révélation qui nous parle de Jésus-Christ, qui nous révèle Jésus-Christ. Et il est au centre de la révélation. Et Jan van Eyck, un autre peintre flamand, enfin Hans Memling n'était pas flamand, mais il fait partie de la peinture flamande, donc du XVe siècle, il a bien compris, vous trouvez ce triptyque à Gand, en Belgique. Alors, n'y allez peut-être pas pour juste aller voir ce triptyque qui est tout petit, en fait, mais il a bien montré qui était au centre de l'Apocalypse. C'est pas le diable, c'est pas le dragon, c'est pas la bête, c'est pas les quatre cavaliers de l'Apocalypse, c'est Jésus, c'est l'agneau. Et Apocalypse 5, nous le dit, ne pleure pas, voici, j'ai remporté, il a remporté la victoire, et j'ai vu un agneau qui se tenait debout, debout, l'agneau. Et l'agneau mystique, l'agneau immolé est véritablement le symbole de la croix, de la mort violente de Jésus, à la fois innocent et obéissant, mais il se tient debout. Il se tient debout comme pour signifier que la mort n'a pas eu le dernier mot, mais qu'au contraire, il est ressuscité, qu'il en ait été victorieux. Il est debout, il est victorieux, comme il l'est de tous ses ennemis, comme il l'est de toutes les forces obscures, comme disaient les Jedi dans la guerre des étoiles. Le Christ victorieux, mais il l'a été non pas par les armes et la violence, mais par l'abaissement, par l'incarnation, par le sacrifice, par l'obéissance, victorieux, par la croix, mais victorieux quand même, et victorieux pour l'éternité. Et c'est d'ailleurs cela, cette présence de Jésus victorieux qui fait toute la différence avec les autres apocalypses de l'époque qui sont comme des apocalypses de compensation, j'ai lu ça quelque part, ça va mal, mais plus tard ça ira mieux, une sorte de pessimisme larvé où on renvoie dans l'avenir plus ou moins lointain l'espérance d'une amélioration. Mais l'apocalypse chrétienne où il y a Jésus au centre ne fait pas dans ce genre-là, elle parle de victoire dans l'avenir, mais aussi de victoire déjà acquise par la croix en Jésus-Christ. Et l'auteur, un auteur, nous dit, et c'est aussi une belle phrase, « Ainsi, Jean transforme l'Apocalypse. Ce n'est plus sous sa plume un message annonciateur de catastrophe prochaine, c'est une affirmation triomphante. Dieu est d'ores et déjà, à souligner ce « d'ores et déjà », intervenu en faveur de son peuple. Une victoire en marche. Une victoire qui se développe dans l'histoire du monde et dans l'histoire de ma vie et qui se termine en apothéose par la victoire finale. Je suis l'alpha et l'oméga, dit Jésus dans Apocalypse 22. Et c'est aussi un message fort de l'Apocalypse, transformer notre philosophie de l'histoire et nous redonner goût à la victoire. Il ne s'agit pas d'entrer dans une campagne triomphaliste qui nierait la misère, la détresse, le mal, les catastrophes, les épreuves, mais tout simplement être dans la vie de tous les jours, être humblement des témoins de Jésus victorieux. Jésus qui est un espoir pour l'humanité, un espoir bien fondé sur la croix et la résurrection, un espoir de victoire totale de la justice sur l'injustice, de la vérité sur le mensonge, de la paix sur la guerre, de l'amour sur la haine, de la victoire de l'agneau. redonner goût, le goût de la victoire. Vous savez, on dit parfois qu'il y a des équipes de foot qui ont perdu le goût de la victoire. Mais plus grave, il y a des personnes qui ont perdu aussi le goût de la victoire dans leur vie. Il y a des couples qui ont perdu le goût de la victoire dans leur vie. Il y a des familles qui ont perdu le goût de la victoire. Et peut-être que vous êtes ce matin aussi pris dans la spirale de la défaite. Alors que faire avec une équipe de foot qui a perdu le goût de la victoire? Il y a deux solutions. Il y a un stage avec Yannick Noah pour changer l'état d'esprit, ou un stage avec Jésus, le Jésus victorieux de l'Apocalypse. J'ai des doutes par rapport à Yannick Noah, mais je n'en ai aucun par rapport à Jésus. Ses ressources sont infinies. Et je me demandais si nous n'avions pas besoin, dans ce monde si décourageant, si défaitiste, si triste, si nous n'avions pas besoin de nos vies marquées par ce sentiment de défaite aussi, de retrouver goût à la victoire, de retrouver la présence victorieuse de Christ et de le placer tout à nouveau comme le personnage central de notre vie, comme il l'est de l'Apocalypse, en n'oubliant pas que Jésus dira, avant de partir au ciel, « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Que le Seigneur bénisse la prédication risquée et humble de sa parole et de ce merveilleux livre de l'Apocalypse. Amen.